RCF.
Et si quelques gestes changeaient notre monde, des idées simples redonneraient-elles espoir à notre climat, à notre planète, à notre environnement ? Nos invités, eux, en sont les premiers persuadés. Ils nous expliquent pourquoi et nous présentent leurs grandes comme leurs petites actions en faveur de l'écologie. Vous écoutez Graines d'idées, le podcast de RCF Bruxelles qui va à la rencontre des acteurs de la transition pour que nous puissions tous, comme le colibri, faire notre part. Bonjour les amis, je suis en compagnie de Gilles de This Human Tribe. Bonjour Gilles.
Salut Audrey, comment tu vas?
Mais ça va super bien. Explique-nous en quelques mots, c'est quoi This Human Tribe?
This Human Tribe, c'est un projet que j'ai démarré il y a 2 ans avec ma compagne, où, quand on a décidé de partir voyager. On s'est dit qu'on allait démarrer un blog, prendre de la photographie et partager ça avec le monde. Et voilà, on est parti, on a rencontré plein de personnes, on a écrit sur eux, on a écrit sur les endroits où on allait, et puis sur les expériences qu'on a vécues, et on a mis tout ça en ligne.
Alors là il vous fait un hyper gros raccourci, parce que à la base, t'es quoi? T'es photographe?
Alors à la base, moi je suis photographe et graphiste de formation, et ma compagne elle était copy, elle écrit et elle a travaillé dans une librairie en Belgique.
Le voyage en question, le premier en tout cas, il a presque duré un an, c'est ça?
On est parti, moi je suis parti au total 11 mois, ouais. Et l'idée était de partir pour un an. Donc on a décidé de partir au Cambodge au début, parce qu'on avait décidé de partir vers l'Asie. Et du Cambodge, on a pas mal traîné, parce qu'on s'y plaisait bien, donc on est resté 4 mois là-bas.
Ouais, quand tu dis traîner, ça fait partie de votre philosophie, on en revient après.
Ouais, à fond. On a bien traîné là-bas, puis on est passé vers la Thaïlande, le Vietnam, le Laos, probablement pas dans cet ordre-là, puis l'Indonésie, et moi j'ai terminé sur le Népal.
Donc, Fra était rentré et toi, t'es rentré un peu plus tard parce que vous étiez disputé?
Non, c'était pas disputé. Non, c'est parce que il y a quand même le fait que vivre 100% de son temps avec quelqu'un, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Vivre 100% de son temps avec quelqu'un avec qui on a un projet, en plus, c'est vraiment pas évident. Donc, c'est clair qu'on aurait pu prendre des petits moments de break là-dedans. Mais il y a la question du budget. Souvent, quand on part sur fonds propres, on a un budget. Et puis, quand le budget il arrive au bout, il faut rentrer, retravailler. Donc, c'était une des raisons. Et moi, j'avais encore envie de voyager. J'aurais pu rentrer aussi, mais j'avais encore envie de voir des choses. On n'était pas en Europe, on était en Asie. Donc, ça avait du sens de prendre un avion pour un pays à côté et d'aller voir ce qui s'y passait, quoi.
Alors, vous êtes rentré, vous avez commencé à raconter vos voyages? Ou ça s'était déjà fait là-bas?
Alors, on avait commencé, le site était prêt avant de partir. Le site était beau, pimpant, sans contenu.
Il est designer aussi. Hein.
Mais le site était sans aucun contenu, donc on n'a pas lancé le site tout de suite. Il nous a fallu, je pense, 5-6 mois pour lancer le site. On l'a lancé quand on était au Laos, avec nos premiers articles. Mais c'est vrai qu'on a continué à écrire jusqu'à, et encore, il y a pas plus tard qu'un mois, on a publié encore un article de contenu qu'on avait, parce que ça prend finalement beaucoup de temps de trouver l'énergie du moment qu'on a vécu et de pouvoir raconter une histoire de manière complètement authentique et d'avoir pris le temps de tirer les conclusions qu'on a à tirer des moments qu'on a vécu.
Non, mais c'est ça qui est superbe dans votre projet, c'est que vous allez sur place, quelque part vous incorporez dans la population, on peut dire ça?
Alors ça a été plus le cas vers la fin et au tout début. Au tout début, on a été vivre chez les habitants. On a vécu sur une île pendant un mois, alors pas tout le temps des locaux. Et puis sur la fin de notre voyage, moi au Népal, j'ai beaucoup vécu avec des locaux, que ce soit des professeurs de yoga dans des petits villages ou bien j'ai fait un stage de peinture où j'étais avec mon prof de peinture pendant une grosse semaine ou même plus. Donc l'idée, oui, c'est vraiment d'arriver à trouver la manière d'être avec les gens dans leur vie à eux, sans demander qu'ils fassent quelconque effort pour s'adapter à nous, et de nous s'adapter à la vie comme eux ils la vivent, c'est-à-dire se lever quand ils se lèvent, se coucher quand ils se couchent, être ok avec le bruit qu'ils font, les poules, la nourriture, l'alcool, tout, et choisir de pas vraiment demander que qui que ce soit fasse un effort pour nous, pour pouvoir apprendre en fait toutes ces manières de vivre qui existent sur cette planète et qu'on ignore souvent.
Alors de ces aventures, tu fais des photos, t'es photographe aussi, il y a des superbes photos, hein, donc je vous invite vraiment à aller voir leur site, hein, This Human Tribe, je le dis très mal, on mettra le lien en description. De ces aventures, vous revenez avec des histoires que vous avez photographiées, que vous illustrez et que vous racontez surtout, c'est ça qui est passionnant.
Ouais, alors on raconte les histoires, c'est même assez niche finalement dans la manière de raconter l'histoire. Ce sont des longs articles, ce sont pas des petits articles qui se lisent en une ou deux minutes. On vit dans un monde où tout se fait très rapidement maintenant, et nous on aime prendre notre temps. Donc on écrit des articles qui demandent à quelqu'un de prendre 10-15 minutes à les lire pour essayer d'aller au fond d'un sujet, non pas d'une manière historique ou autre, mais plutôt d'une manière du ressenti, de ce qu'on a vécu et de comprendre ces vies qui sont totalement différentes de nous, et d'inviter aux gens de partir en voyage pour, avec un grand V, partir pour voir le monde et non pas partir pour vivre une expérience qui est un peu touristique ou autre, mais vraiment se poser quelque part et faire leur propre expérience.
À choisir, plus la photographie ou le récit ?
Ah, mais est-ce qu'il y a une différence entre les deux, vraiment ? On avait cette phrase dans quelque part qui disait que une photo, c'est 1000 mots, mais que finalement, un stylo est plus fort qu'une épée. Donc, des deux côtés, lequel raconte plus de... Je sais pas, je pense que les deux sont assez complémentaires. Dans ma formation de graphisme, on me disait toujours, ne dis pas ce que tu montres et ne montre pas ce que tu dis. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de trouver une manière de faire. Parfois, les photos sont un support pour se rappeler de ce qu'on a vu, et on les met pas dans un article, mais on met une autre photo et on prendra pas le temps de raconter ça spécialement en détail, parce que les deux sont finalement complémentaires. C'est deux sens différents finalement, et c'est deux manières d'être touché complètement différents.
Gilles, écouter ou raconter?
Ah, ça c'est une question pour Francesca. Ça, je pense que écouter avant tout. Il y a rien à raconter si on n'écoute pas. Si on passe son temps à vouloir raconter des choses, on est déjà en train d'écouter en ayant l'histoire qu'on veut dire. Si on écoute sans avoir d'idée où on va, à ce moment-là, il y a les vraies choses qui sortent. Et si on laisse les choses macérer de tout ce qu'on prend, mais écouter, voir et recevoir, toutes les compétences passives, à ce moment-là, on peut raconter une histoire.
Et en plus, dans votre couple, alors Fra n'est pas là, elle est partie près du Père Noël, on vous racontera ça dans une autre histoire, hein, parce qu'on ne va pas les lâcher, hein, on va les suivre encore un petit peu. C'est Fra qui raconte plus que toi ?
Alors ça a commencé comme ça, hein. Moi j'avais... On discute toujours, donc je crois qu'on raconte, on se raconte beaucoup de choses et on parle de beaucoup de choses. Francesca, de son background, plus littéraire que le mien, elle a toujours aimé écrire, elle a toujours écrit. Moi, j'avais mon background de photographe, donc on s'est dit, on va faire ça à deux. Mais sur le long terme, je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire aussi et que c'était vachement intéressant. Et surtout que nos points de vue étaient assez différents, non pas dans la manière de raconter l'histoire, mais dans la manière dont on regardait le monde, d'une manière de trouver ce qu'a raconté et la manière dont on va chercher l'information. On a des manières assez différentes de fonctionner, et donc ça amène de nouveau quelque chose d'assez intéressant, et ça permet d'avoir nos deux personnalités qui existent dans nos articles.
Gilles, quand Francesca écrit, est-ce qu'elle applique une technique particulière, ou quand toi tu écris?
Alors je pense que on a deux manières assez différentes de voir les choses. Je pense que Francesca a une manière de se mettre à l'écoute des gens et de poser quelques questions pour peut-être un tout petit peu orienter où l'histoire va, mais elle est beaucoup dans l'observation et l'écoute de ce que les gens racontaient. De mon côté, je suis plus dans mon ressenti des choses, et j'aime bien partager ce que je ressens dans ce que je vis.
Et lorsque vous rencontrez des gens, vous avez un petit carnet, vous écrivez ?
Étonnamment pas tellement. Ça nous est arrivé quelquefois. Un jour, on était dans un restaurant à Bangkok. Il y avait une super belle photo au mur et on trouvait ça intéressant, donc on a posé la question sur la photo. Et au moment où les gens qui sont propriétaires de ce restaurant ont commencé à nous raconter l'histoire de la photo, on a tous les deux pris notre téléphone et on s'est mis à enregistrer sur la table, en se disant il y a quelque chose là qui est intéressant. Puis on a attendu la fin du service, on leur a parlé, on a dit est-ce qu'on pourrait vous poser des questions et est-ce qu'on pourrait vous enregistrer. Donc on a fait une interview. Mais après, quand on s'est dit on va enregistrer, ça marche jamais aussi bien que quand on laisse vraiment les choses venir naturellement.
Moi j'avais l'impression, en voyant vos photos, en lisant vos textes, qu'en fait c'est pas vos souvenirs, c'est pas ça que je veux dire, parce que c'est net, c'est précis, vous racontez des faits. Mais c'est tout ce que vous avez absorbé, quoi. Vous n'avez pas pris note de, à ce moment-là, il a fait telle chose. C'est votre vécu.
Oui, il y a vraiment ça. Je pense que l'invitation au voyage et l'invitation de ressentir les choses, de vraiment faire des expériences, c'est quelque chose qui pour nous a de l'importance. C'est qu'on on peut écrire 1000 articles sur toutes les villes du monde et expliquer aux gens ce qu'ils peuvent aller voir, où ils peuvent aller manger, mais c'est pas la bonne invitation pour nous. Ce qui est intéressant, c'est de dire non, il faut voyager. Posez-vous la question où vous avez envie d'aller et perdez-vous. perdez-vous dans les dans une rue où vous savez pas où vous devez être et vous avez trouvé un petit bibouille super sympa. Et ça, c'est plus intéressant pour nous. Donc c'est vrai, ouais, c'est plus une invitation à la découverte et au partage.
Et lorsque vous écrivez, vous partez sur des thèmes ou vous avez des grandes thématiques, des grands chapitres?
On aime penser à l'idée que les histoires viennent vers nous. Donc avec assez d'écoute, avec assez de temps, avec ou en ouvrant les yeux, en regardant autour de nous, on se dit tout à coup, hein, ben, ça c'est une histoire, ça on devrait en parler. Alors ça n'a pas toujours été clair sur le moment, il y a des histoires qui sont venues après, on s'est dit en fait là on a une histoire, on s'en était pas rendu compte. Et puis il y a des moments où on se dit tout de suite, mais ça évidemment ça c'est une histoire, ça c'est quelqu'un. Donc une des sections, ça s'appelle la section Tribers, c'est les gens qu'on rencontre et ce sont des gens qui en soi n'ont rien d'extraordinaire ou de pas, ils sont juste extraordinaires parce qu'ils sont humains, ils n'ont pas fait quelque chose de fantastique. Et quand on raconte les histoires de ces gens-là, ben c'est vraiment un moment où on passe du temps avec eux, on va visiter, on propose aux gens d'aller boire un verre, puis on leur dit, est-ce que vous avez envie d'aller visiter un truc avec nous, qu'est-ce que vous avez envie de nous montrer, où vous voulez aller. Et puis on se retrouve parfois à passer 3-4 jours avec quelqu'un, et tout à coup, là, il y a quelque chose qui émerge, mais ça émerge parfois le quatrième jour, et quelque chose qui a été dit le premier jour fait du sens seulement le quatrième jour. Donc ouais, c'est plutôt ça l'idée, quoi, c'est de prendre le temps d'être présent avec les gens et dans les endroits où on est.
Si tu avais quelques exemples à raconter d'aventures que vous avez vécues en quelques mots.
L'aventure dans les Tribers, je pense, les vraiment les plus chouettes, il y a Ginny qui est une personne dont on parle tout le temps avec Francesca, qui nous, sans nous en parler, est un exemple vivant du Wu Wei, qui est une philosophie chinoise, le effortless living, la loi de vivre sans effort, et qui a une manière de vivre ça sans jamais l'expliquer à qui que ce soit. Tellement ça, et Francesca a réussi à lire ça, donc ça c'était quelque chose d'assez fantastique. Dans les expériences à moi qui m'ont vraiment touché, ben, je me suis retrouvé dans un village où je pensais faire une interview d'une chamane népalaise, et la nuit, donc la première nuit où je suis resté là-bas, à ma deuxième visite, une personne est morte, et j'ai vécu toute la cérémonie de crémation bouddhiste dans un petit village népalais de 1000 personnes, où j'ai documenté tout avec mon appareil photo, où j'ai bu l'alcool fait maison avec les locaux, et où je me suis retrouvé dans une forêt à 6h du soir à voir un corps brûlé, quelque chose de complètement dingue qui touche au plus profond de notre humanité. Et de vivre une expérience comme ça, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver sur un site internet et booker des vacances ou autre, se dire je veux aller découvrir ça. C'est quelque chose qu'on peut vivre si on s'offre la chance de connecter avec les gens, parce qu'ils n'auraient pas invité, c'est pas qu'ils invitent tous les touristes à toutes les crémations, c'est qu'à un moment, il y a le temps de passer avec eux, le côté de l'envie qu'ils avaient. La confiance et l'envie qu'eux ont qu'on parle de leur culture, en fait, de partager ça. Donc l'idée, c'est de ne pas chercher les histoires, de les accepter et puis de voir ce qu'il en est. Puis on a écrit d'autres articles qui sont parfois plus simples, mais qui sont ressentis sur des lieux touristiques, sur comment le tourisme impacte les choses, au Laos par exemple, ou certains temples en Thaïlande, qui parfois semblent un peu too much, et se dire, ben tiens, comment le tourisme et comment notre besoin de voyager influence les cultures locales et change la manière dont on voit les endroits, parce que les endroits deviennent faits pour les touristes et non pas pour les locaux. Et c'est une grosse question qu'on se pose quand on voyage aussi.
Est-ce que tu serais plus photographe ou sociologue? Je me pose la question.
Alors moi, j'ai quelque chose dans l'observation, c'est sûr, mais je ne sais pas si sociologue, c'est le bon mot. Il y a quelque chose qui va plutôt de l'anthropologie, j'ai l'impression, mais il n'y a pas une envie de définir quelque chose d'universel ou une loi universelle de quelque chose, mais de voir la diversité de tout ce qu'il y a. Donc, je reste un photographe au fond de moi-même. Quand je me balade, j'ai toujours un appareil photo dans la tête si je ne l'ai pas dans les mains. Et je pense que je resterai quand même sur photographe.
À quel moment, toi, en tant que photographe, tu te rends compte que c'est un cliché porteur au sens humain et au sens esthétique? Est-ce que l'œil, tout de suite, il tique? Parce que tu ne nous fais pas des photos du pont de San Francisco. Bah, pour le coup, vous n'êtes pas allé à San Francisco, mais tu ne nous fais pas forcément une photo d'un bel arbre. Il y a toujours le sujet humain chez toi.
Alors il y a souvent le sujet humain, et en tout cas au moins comment l'humain réagit dans son entourage. À partir de quand un sujet devient esthétique, je pense que ce qui est intéressant, c'est quand on voit que la personne prise en photo ou les gens qui sont pris en photo ne font pas attention à l'appareil photo. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui montre qu'on a été accueilli par les personnes, qu'on n'est pas juste de passage, qu'on a pris du temps à se familiariser à leurs coutumes et qu'on est vu comme un ami et qu'ils comprennent l'intérêt qu'on a pour eux et qu'on n'est pas là pour prendre quelque chose, mais aussi pour donner quelque chose et pour partager ce qu'eux ont raconté.
This Human Tribe, c'est un site internet, c'est surtout là qu'on peut venir parcourir vos aventures, c'est ça ?
Ouais, c'est là où on s'est mis à partager. En fait, quand on est parti, on a envie de se dire, tiens, si on pouvait trouver un endroit pour rassembler toute l'information et pas juste faire ça un voyage incroyable qui termine en quelques photos qui sont sur un téléphone. Donc oui, on a rassemblé nos histoires dans des catégories qui nous semblaient une bonne manière de partager notre vécu et puis inviter aussi les autres personnes à voyager, eux, de leur côté, pour avoir des expériences qui leur sont propres, pas pour essayer de vivre ce que nous on a vécu, mais plutôt aller découvrir de leur côté le monde dans la manière qui va leur faire du bien à eux.
Ah, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a, pour moi, il y a un énorme aspect sociologique, respect des personnes. Vous faites des superbes photos. Moi, on en parlait tout à l'heure, on préparait un peu l'émission et je me disais finalement, vous faites un état des lieux du monde.
Alors c'est une bonne manière de le mettre, un état des lieux, c'est assez intéressant. Ce qu'on s'est dit, c'est que quand on voyage, en fait, on est un peu un spectateur. C'est comme si on allait voir un spectacle du monde et de la manière de vivre. Du coup, on s'est dit, bah, on va essayer de pas intervenir, on va plutôt se poser là et regarder comment les choses se font. C'est en anglais, ce qu'on dit souvent, c'est du slow traveling, c'est prendre le temps, c'est... On n'est pas en train de bouger toutes les semaines ou tous les deux jours. On reste parfois deux semaines, trois semaines, un mois. Et donc, on tisse des liens avec les gens des alentours, ce qui nous permet de raconter des histoires qui sont en fait des histoires de vie finalement assez simples, mais qui sont tout à fait authentiques et réellement la vie des gens. Donc, on partage ça de la manière la plus chouette et la manière parfois la plus folle et la plus inattendue sans aucune idée de où on va au final.
Alors, je sais que tu n'es pas tout à fait d'accord parce qu'on en a parlé juste avant. Moi, j'ai envie de dire quand même sociologue, poète. Toi, tu dirais peut-être plus anthropologue, photographe, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes des sociologues, poètes, quelque part ?
Mais écoute, sociologue, poète, ça commence à être pas mal, hein ? Sociologue, poète, c'est pas mal, je pense que...
Poète pour l'image et sociologue pour le texte. Mais les textes, ils sont très bien écrits. Ils sont en anglais, hein, vos textes ?
Nos textes sont en anglais. Nos textes sont en anglais. Je pense que poète, c'est bien parce que ce qui est intéressant, c'est que dans la vie, l'important pour nous, c'est de créer quelque chose. Je pense qu'on est tous là pour créer. La vie, c'est juste une création qui est complètement incompréhensible. Et d'être là et de pouvoir se dire, ben, j'ai aussi ma possibilité de choisir un mot, de raconter une histoire, de transcrire quelque chose que j'ai vécu, qui est une expérience qui n'appartient qu'à moi et que personne ne peut vivre de la même manière que moi. C'est de la poésie, au final.
Oui, c'est de la poésie. Puis vous vous attachez aux personnes, mais finalement, vous vous décrivez les peuples et vous décrivez des lieux aussi. Vous décrivez un peu le tout, quoi. Donc, c'est ça que dans mon esprit sociologue plus qu'anthropologue, c'est mon avis à moi, hein, pour ce que j'avais lu de vous par le passé. Mais c'est un peu l'idée que j'en ai quand même. Mais après, ça appelle pas forcément de réponse, mais tu peux... je sais pas comment je peux te passer la main là-dessus.
Ah, moi, je vais le prendre juste comme un compliment. c'est une belle description et on va brainstormer là-dessus avec Francesca. On va en parler. Sociologue, poète, c'est...
Je vous invite en tout cas à aller voir le blog de This Human Tribe. Où est-ce qu'on peut vous trouver ?
Alors, c'est thishumantribe.com pour le site. Et on essaye majoritairement de communiquer via notre site et via notre newsletter qui se trouve sur notre site. Sinon, on a aussi les classiques réseaux sociaux. On est sur Instagram et Facebook, mais on les utilise pas tant que ça. Finalement, le site et notre newsletter, c'est le meilleur endroit. Mais évidemment, vous êtes bienvenus partout. Et puis là, on travaille sur nos nouvelles idées de projet, savoir comment on peut pousser le projet This Human Tribe dans une espèce de deuxième vague, puisque la première, c'était un long voyage, et trouver des manières un peu plus concrètes et un peu plus rapides de travailler, où on prend le temps de trouver une idée de projet et de se focaliser dessus et faire quelque chose vraiment jusqu'au bout, plutôt que de virevolter à gauche, à droite, de regarder ce qui se passe, c'est d'être un petit peu plus concentré pour pousser les choses encore plus loin.
C'est ça, donc vous allez davantage préparer vos futurs voyages, c'est ça que tu es en train de nous dire ?
Alors préparer, ça va toujours être quelque chose d'assez difficile pour nous. Ce qu'on essaye de trouver, c'est plutôt la logistique, préparer un peu la logistique. Notre premier voyage, il a été fait en fonds propres. Voyager en fonds propres, c'est fantastique, il y a une espèce de liberté, mais il y a aussi un compte en banque qui diminue et qui diminue et qui diminue. Et puis à un moment, il y a une réalité qu'on a complètement changée en un an parce qu'on a découvert plein de choses et que malgré tout on revient à une réalité qui elle n'a pas tellement changé que ça, de retrouver dans une habitude de boulot, etc. Donc là maintenant on a envie de continuer à faire ça professionnellement et de le faire mieux et bien. Donc l'idée c'est de se dire ben, où il y a quelque chose qui est intéressant et qui nous intéresse et qui nous parle et comment on peut essayer de faire un projet un peu plus conséquent dans un temps un peu plus court que partir pendant un an sans savoir où on va, quoi. Vraiment prendre quelques mois sur un endroit et raconter cet endroit, comment on l'a vécu.
Alors, on les suivra partout, les amis. On les suit partout et surtout, on va aller lire leurs articles, regarder leurs photos. Et puis, c'est pas fini parce qu'on va être amené à nous revoir, ça j'en suis certain. Un tout grand merci, Gilles.
Merci beaucoup.